voudrais autant vous accueillir ici, à Chambord, près de notre club, qui est le club thérapeutique de Samory. Je trouve que c'est toujours une très belle chose de se rassembler pour aller avec mon truc, interclub, etc. Ici, on a tous le même droit à la parole. Pour parler un peu de pourquoi on se réunit ici, je pense qu'on est tous ici pour le même objectif, pour l'accueil de la différence, le partage, l'écoute et la responsabilité et beaucoup d'autres choses encore.
Les malades potentiellement dangereux doivent être soumis à une surveillance particulière afin d'empêcher un éventuel passage à l'acte. Il faut plus de sécurité et de protection dans les hôpitaux psychiatriques. Nous allons d'abord réaliser un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques. Certains patients hospitalisés sans leur consentement seront équipés d'un dispositif de géolocalisation. Le principe, nul ne peut être soigné sans son consentement. Faut-il encore que son consentement soit lucide? Vaste débat, me direz-vous. Mais enfin, moi, j'ai des obligations de résultat vis-à-vis de la société. Il faut plus de sécurité. Il faut plus de sécurité. De sécurité. De sécurité.
Bonjour Olivia.
Bonjour.
Olivia, vous êtes membre de l'association UMAPSI. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association?
Alors UMAPSI est une association qui a donc été créée en 2011 par les patients du centre Artaud, en fait. Quelques patients du centre Artaud. Donc au départ, c'est une association créée à Reims. Fin 2011, c'est important cette date parce que c'est en ce qui déclenche l'envie de créer une association, c'est au fond d'avoir participé à une mobilisation contre une loi à cette époque-là, loi qui est votée, qui réforme une modalité de la psychiatrie qui est pour nous très inquiétante, qui rend possible la contrainte en ambulatoire. Ça va avoir beaucoup d'incidences par la suite, ça risque de continuer. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, peut-être que si on crée une association, ça va rendre plus légitime notre témoignage, notre propos. Voilà, donc c'est une réaction un peu à une bataille perdue, en quelque sorte. Et moi, j'ai rencontré, donc, je suis parisienne en fait, et j'ai rencontré les patients de Reims au cours de cette mobilisation en 2011, dans les manifs qu'on faisait contre auxquels on participait à cette époque-là, contre cette loi. Et en fait, j'ai pas du tout eu affaire à une psychiatrie comparable à celle qui est pratiquée là-bas. Hein. J'en ignorais complètement l'existence. Moi, j'ai eu affaire à une psychiatrie plus ordinaire, aujourd'hui très banale, enfin aujourd'hui probablement dominante, qui est la psychiatrie dite de progrès, moderne, etc., qui pense le soin essentiellement, quasi exclusivement du côté du modèle biomédical et qui évacue totalement la dimension humaine dans le soin, la relation, etc. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait plusieurs psychiatries, plusieurs cultures de soignants, ça m'a procuré un très grand soulagement de me dire, ah, j'ai bien fait de trouver les autres vraiment nuls à chier, parce que la preuve, il y a même des professionnels qui ont une autre conception du soin, donc c'est bien que ça se discute hein, quand même, c'est pas tranché. Et par ailleurs, je mesurais à cette époque-là que si on pouvait perdre un combat contre, par exemple, le recours à la contrainte, si on n'arrivait pas à faire entendre à la population, aux citoyens, aux médias, etc., que contraindre des soins, c'est pas soigner, et que on ne peut contraindre que des médicaments ou des interventions, enfin le type d'intervention qu'on peut imposer. Si on n'arrivait pas à faire entendre ça, c'est parce que c'est très difficile de se représenter qu'est-ce que soigner quand il s'agit de notre psychisme. Et donc, pour faire exister le sentiment d'indignation devant la façon de traiter les gens en psychiatrie, par la contrainte, par le tout médicament, etc., il faut que les gens puissent se représenter qu'il y a une autre façon de faire. Et c'est très mal connu. Et donc, forcément, à l'époque, on se bat contre la contrainte en ambulatoire, qui est juste le fait d'être sûr de bien imposer les traitements, parce que les patients de psychiatrie, c'est bien sûr très... On leur reproche toujours d'être dans le déni de leur maladie, parce qu'ils ne veulent pas se soigner, etc., mais ils ne veulent pas être mal soignés, ils ne veulent pas être maltraités. Et donc, oui, parfois, ils s'opposent, en effet, quand on les traite mal. Mais voilà, si on croit à la toute-puissance du médicament, aux effets magiques du médicament, les gens vous disent « Oui, mais ils ne savent pas qu'ils sont fous, il faut bien les obliger à prendre leur traitement, c'est pour leur bien. » Oui, mais si vous pouvez, voilà, il faut pouvoir se représenter qu'on peut faire autrement pour s'indigner de ces façons de faire. Donc je me suis dit, si UMAPSI entend témoigner de ce que c'est que, par exemple, que la psychothérapie institutionnelle, de comment se passe la psychiatrie de secteur public à laquelle qui les soutient depuis certaines très nombreuses années, ce témoignage a d'autant plus d'intérêt que voilà, il peut nourrir une certaine critique des abus de la psychiatrie. C'est très difficile de se faire une idée, de faire des généralités même sur l'histoire de la psychiatrie. Il y a des témoignages très dissonants. La maltraitance, ça date pas d'aujourd'hui non plus. Enfin bon, c'est difficile d'avoir voilà, de raconter une histoire comme si on était sûr de ce qu'on raconte parce que tout le monde témoigne de ce qu'il a connu et tout ça fait une espèce de patchwork dans lequel bon bah voilà, on a du mal à se faire à se forger une opinion. Alors, de quels moyens on dispose, de quels moyens on se donne, on a tenté, alors il y a eu les années où on a participé à la création d'une Mad Pride, qui a peut-être été à Paris le moment où on s'est fait connaître un peu au-delà des cercles, des premiers cercles qui avaient conscience qu'on existait, ça nous a fait peut-être connaître un peu plus largement. Et ensuite, on a forcément un petit peu déchanté du côté de la représentation des usagers, de la démocratie sanitaire, etc. Parce que, bon, c'est un truc où on n'est pas nécessairement sollicité et auditionné comme ça. Quand on est une toute petite assoce, les associations qui sont consultées dans les différentes commissions, etc., sont en principe celles qui ont déjà un agrément national. Voilà. Donc, c'est pas si simple de peser de ce côté-là. Localement, c'est différent. Et puis, j'aurais du mal à prétendre qu'on se rend très audible. Ça, si ça se saurait, si on était capable de se rendre très audible. Voilà, donc c'est complexe. Même quand c'est la parole des patients, c'est complexe de se faire entendre parce que c'est des choses qu'on... c'est complexe. Peut-être le travail dans lequel on trouve le plus d'intérêt et de résultats, c'est du côté de la transmission vers les jeunes professionnels ou futurs professionnels. C'est-à-dire que quand on est invité dans un lieu de formation, que ce soit pour des éducs, dans des IRTS, travailleurs sociaux, formation des infirmiers, parfois même dans des facs de psycho, enfin voilà, quand on peut rencontrer des gens qui sont en formation aujourd'hui, on sent qu'on fait passer des messages qui soutiennent du côté de la vocation de se mettre en lien avec les patients, parce qu'il y a quand même des gens qui s'engagent dans ces métiers avec cette idée-là et qui vont recevoir un enseignement qui aurait tendance à refermer cette idée-là. Hein. On va leur donner des techniques, des outils, déjà les formater, à suivre des protocoles, etc. Et on essaie de soutenir quelque chose de leur... quelque chose de l'ordre de la vocation, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'engagent dans ces métiers avec cette sensation-là, que ça va être important de rencontrer les patients, quoi, par exemple, de faire des choses avec eux, alors que ça, aujourd'hui, c'est effectivement ça, très difficile de faire reconnaître qu'il y a une valeur à des choses qui sont de l'ordre de la vie, presque d'une vie quotidienne, d'un compagnonnage, de relations dans le temps, d'un étayage effectivement qui se passe du côté de la relation, mais ça c'est pas assez technique, c'est pas assez... Donc si on ne veut plus voir qu'il y a là du soin, on réoriente les professionnels vers des techniques ou des choses qui mettent beaucoup de distance en fait entre les deux. Entre le soignant et le patient, si on est dans un protocole où le soignant ne peut plus être en sincérité dans son intuition, avec son donc on essaie de du côté des infirmiers par exemple qui sont en lutte en ce moment, ils peuvent sentir que les médecins qu'ils ont avec eux dans les hôpitaux sont pas tous en train de soutenir que l'équipe infirmière a un rôle relationnel avec le patient. Bah nous on vient leur dire que ces médecins-là, nous, on ne les respecte pas et qu'ils suivent, qu'on a beaucoup de respect pour les professionnels qui sont, par exemple, les infirmiers. Alors, ils ne sont pas tous pareils, évidemment. Mais ceux qui aiment ce boulot, c'est ceux qui sont prêts à s'engager dans la relation, en général. Et donc, on renvoie à ceux-là que, heureusement que quand on est hospitalisé, il y en a des comme eux, parce que ceux qui se comportent en maton ou qui viennent vous rappeler les règles sur un ton très méprisant, ceux-là, ils font pas de bien, mais ils font du mal. Enfin, c'est des choses très simples, mais parfois, c'est important pour les professionnels d'entendre cette reconnaissance. On serait très ridicule de parler en termes de reconnaissance, mais quand on souffre, on peut dire le besoin de soins. Et la reconnaissance quand on en trouve, c'est pas une honte de dire j'ai besoin de soins et ça me fait du bien quand j'en rencontre.
On associe la maladie mentale, la maladie psychique avec la dangerosité. Et je crois qu'il faut absolument sortir de cette question. Une personne qui est atteinte d'une pathologie psychique a plus de chances d'être victime d'une infraction et moins de chances de commettre une infraction. Je crois que c'est extrêmement important parce qu'une fois que socialement, on aura intégré que les personnes qui sont malades sont d'abord des personnes vulnérables et non pas des personnes dangereuses, je pense qu'on aura un autre regard sur la psychiatrie et la maladie psychique.
Bonjour Eva.
Bonjour. Donc moi je suis en fonction en tant que psychiatre dans un CATTP hôpital de jour qui est situé à Montfermeil et qui est rattaché à un très très gros hôpital de secteur qui couvre le 93 qui s'appelle Ville-Évrard. Paraît-il le plus grand de France. Je suis au truc, non pas en tant que psychiatre de ma structure, mais plutôt en tant qu'adhérente et secrétaire de Champ Libre, qui est le club thérapeutique qui permet d'organiser et de fournir les soins là où on travaille. Alors le truc, moi j'y suis un peu arrivée en cours de route, j'ai participé qu'aux deux dernières réunions, mais comme on en fait une tous les trimestres, bon ça fait on va dire déjà 6 mois, 1 an que je m'occupe un petit peu de ça, que je m'y investis en tout cas. De ce que j'ai compris, c'est que voilà, tous les clubs ont ressenti la nécessité de se retrouver parce que on a quand même tendance à se sentir un peu isolé dans notre manière voilà, de concevoir le soin et le bien-être, on va dire. Au début, ça a été plutôt les forums interclubs, où les forums ils sont axés sur le faire ensemble. On fait des ateliers toute la journée. Et je pense que de là, de ce que j'ai compris de l'histoire du truc, a émergé l'envie de faire plutôt des tables rondes et de repolitiser un peu aussi le mouvement associatif qu'on pouvait rencontrer en psychiatrie. Le truc est né. Et voilà, nous, on est rentrés dedans avec grand plaisir parce que moi, je tiens beaucoup au côté politique. Ça a été un grand débat parce que moi, quand je suis arrivée bosser dans ma structure, justement, la politique avait été un peu évacuée et c'était compliqué. Les soignants ne voulaient même pas parler de leurs propres opinions politiques comme si c'était un peu un tabou ou qu'il fallait faire une omerta là-dessus. Et en fait, je pense que la psychiatrie, de par sa nature même, est déjà politique puisque c'est ce qui fixe le normal ou la normale. Donc à partir du moment où on parle de normativité ou de choses comme ça, on est déjà dans la question politique. Pour moi, le politique, la manière dont je m'en suis saisie, c'était bon, ça, la question du normal ou du pathologique, on va dire, et aussi la politique au sens premier du terme, organiser la vie de la cité les uns avec les autres, pas la politique politicienne. Au sein de Ville-Évrard, l'établissement est énorme, donc je ne pourrais pas dire comment ça se passe dans les autres secteurs. Chez nous, l'organisation politique de la vie de notre institution, elle va des choses les plus communes et les plus quotidiennes, aux projets voilà, les plus fous, on va dire, d'ailleurs. Par exemple, tout est décidé démocratiquement, donc même là, on doit racheter une nouvelle machine à café, bah voilà, comment on va la payer, avec quel budget, quelle enveloppe on débloque, oui, mais nous, on en voudrait une comme ci, oui, mais nous, on voudrait un percolateur. Donc il y a déjà voilà, un système d'organisation. Tout le fonctionnement du lieu est aussi organisé de cette manière-là, au niveau démocratique. Et après, bah, par exemple, quand on veut participer à des mouvements plus intenses, on va dire, ou en tout cas qui recouvriraient ça, comme le truc, ou partir à un forum, de nouveau, c'est la discussion, qui veut y aller, est-ce qu'on y participe ou pas. Donc voilà, ça se fait à tous les étages. Le club thérapeutique, ça a été inventé dans les années 1960. C'est une poussée merveilleuse pour les soins. Et avant de repenser, il faudrait déjà remettre cet outil qui est déjà existant au centre des pratiques et ça pourrait apporter beaucoup de réponses. Après, tout à l'heure, dans les débats, voilà, on soulignait repenser, réorganiser. C'est pas qu'une question de finances, certes, mais moi je pense quand même que la question de l'argent, elle est importante, c'est le nerf de la guerre et il faut des financements. Il ne faut pas que se réorganiser, il faut de l'argent pour la psychiatrie. Par exemple, redonner des chaussons aux patients qui sont en chambre d'isolement dans les pavillons, remettre 2 pains par repas par jour. Voilà, des choses vraiment... Enfin là, on rentre presque dans une pauvreté des services psychiatriques. On ne peut plus avoir de stylo, on n'a pas de scotch. Enfin bon, c'est des choses complètement délirantes. Et après, d'une manière plus générale, pourquoi pas partir dans cette idée que les choses se passent plus en ambulatoire et que l'argent aille voilà, dans les hôpitaux de jour, dans une manière de soigner qui est moins répressive, enfermante. Après, bon, je ne suis pas non plus gestionnaire, donc je ne pourrais pas dire quelles sont les priorités. Alors, je pense que ce qui fait résistance, c'est déjà de prendre conscience de ces problèmes-là, d'essayer de les diffuser, parce que c'est vrai que le milieu psychiatrique, à part les concernés, donc les soignés, les soignants, bah, au final, je fais un parallèle, hein, mais c'est un peu comme le milieu pénitentiaire. Hein, si ça ne sort pas des murs, personne n'est jamais au courant. Donc c'est tout un pan de la société voilà, qui est un peu effacé quand même du débat public. Donc informer les gens. Après, en effet, il y a ces discussions où on dénonce, on construit, on écrit des lettres. Voilà, on passe par des voies formelles ou informelles. Mais moi, je pense qu'il y a un moment, il va falloir arrêter de débattre. Et voilà, il va falloir endosser aussi notre rôle, peser nos engagements et partir oui, dans des actions de désobéissance, par exemple.
Il faut plus de sécurité.
Alors la dame disait tout à l'heure qu'ils avaient du mal à motiver le personnel. C'est pour ça que moi, je trouverais ça bien que ce soit eux qui organisent le forum, parce que pour une fois, c'est les patients qui vont motiver le personnel et non l'inverse. De plus, je trouve que le forum, c'est quelque chose de... Les clubs, tout simplement, c'est quelque chose de magnifique, ça nous valorise. Et ça fait progresser la psychiatrie. Et c'est ça l'objectif premier, c'est de faire progresser la psychiatrie.
Bonjour Nora.
Bonjour madame.
Est-ce que vous pouvez me dire en un mot ce que c'est pour vous le truc ?
Pour moi, le truc en un mot, c'est comme, comment dire, c'est prévoir à l'avance et anticiper ce qu'on pourrait organiser dans les différents clubs. Et avoir différents projets dans les clubs, c'est comme, comment dire, anticiper ce qu'on va faire plus tard dans les clubs. Moi, je viens de Villiers-sur-Marne, 94, Val-de-Marne. Moi, je représente le club Trouble Fête. Chez nous, on fait, comment dire, on a différentes réunions. On a une réunion le mardi, une réunion le jeudi après-midi. On a aussi un CA avec les gens du CA, les administrateurs. On organise un repas tous les mardis au CATTP, c'est 3 € le repas, et on a 20 €, on a comme 20 €, comment dire, pour les gens qui n'ont pas les moyens de payer leur repas, qu'on offre. Et on organise pas mal de choses, on fait des ventes de gâteaux, on a déjà fait un voyage au Portugal, on organise des sorties, et à chaque fois qu'on fait une vente de gâteaux ou de quoi que ce soit, les dons sont reversés à nouveau au club pour faire à nouveau des choses pour les gens du club. Il y a un très grand esprit de solidarité et on travaille beaucoup sur ça, la solidarité. On a une buvette qui se trouve en bas du CMP, on a une buvette qui se trouvait à Héloïse, dont je fais partie depuis 3 ans. Je m'occupe de la buvette à Héloïse avec l'aide de Nader, un psychologue, et Geoffrey aussi psychologue et une stagiaire. Et qu'est-ce qu'on a organisé ? On a organisé il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, une journée à la mer. On organise souvent des... La dernière fois, on a fait... on a appris à faire des crêpes, on a mangé ensemble des crêpes et on faisait stage crêpes. Club thérapeutique, ce que ça m'apporte, ben ça m'apporte énormément. Ça me permet de me sentir valorisée, de plus me sentir qu'une personne tout simplement malade, mais une personne qui peut réussir des choses en tant que malade et en tant que clubard, qu'il ne faut pas toujours prendre des malades pour des gens qui ne savent rien faire.
Bonjour Marie-Odile.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la petite revue que vous avez dans les mains ?
Oui, qui n'est pas une petite revue, intitulée Institution. C'est la revue de psychothérapie institutionnelle et de la FIAC. Alors FIAC, c'est la Fédération Inter-Association Culturelle qui était à l'origine de cette revue, enfin, la création de cette revue, et qui continue à s'en occuper. Voilà. Donc les associations culturelles, le nom ne l'indique pas de manière très nette, sont des associations de soignants en psychiatrie. La revue depuis s'est beaucoup ouverte, mais à l'origine ce sont donc des associations dans des hôpitaux-services de soignants qui se sont réunis, regroupés, fait des colloques et tenté de diffuser des textes sur leur travail. Donc l'initiative est partie d'un groupe de collègues et amis d'Angers, mais très vite a diffusé sur, sur l'ensemble du territoire français. Et historiquement ou idéologiquement, l'inspiration, ça a été beaucoup la clinique de la Borde et la mouvance dite de psychothérapie institutionnelle. Maintenant, une certaine autonomie des gens qui prennent cette revue en charge avec, des comités de rédaction, parce qu'au fil des années, forcément, ils ont changé, et qui assurent le recueil des textes, leur lecture, sélection, en partie diffusion, et aujourd'hui, avec l'aide des éditions Dune. Voilà. Historiquement, ce n'était que des professionnels. Aujourd'hui encore, sauf qu'on accueille de plus en plus des textes venant aussi de personnes en soins. Voilà. Mais c'était les professionnels qui étaient à l'origine. Peut-être qu'il faut reprendre cette notion de témoignage avec un besoin de faire entendre leur pratique. Et des professionnels, pas forcément médecins, parce que pour les médecins psychiatres, il y a de très nombreuses possibilités de se faire entendre, de publications, de colloques. Pour les catégories infirmiers, éducateurs, assistants sociaux, ce qu'on appelait des travailleurs de base, les possibilités sont quand même beaucoup plus restreintes. Et puis parce qu'aussi, ils ont un accès à l'écriture qui est peut-être moins aisé, moins universitaire, moins intellectualisé. Donc une des caractéristiques de cette revue, c'est d'accueillir des textes extrêmement divers et variés, mais dont le fil conducteur serait le rapport à la pratique et à la pratique des gens de terrain de base. Alors, ça n'exclut pas qu'un médecin, on a de très très bons médecins, je pense à Pierre de Lyon, je pense à Michel Le Carpentier, ou des universitaires, il y a eu Michel Ballat, Jean Houry a été quand même parmi les personnes qui nous ont offert des textes, bien d'autres qui vont, j'espère ne pas être vexés de ne pas être nommés, mais l'idée c'est quand même d'ouvrir ces colonnes à des gens qui au quotidien sont en contact pour des soins avec des malades mentaux. Donc ce serait la quotidienneté du soin qui est un peu privilégié, pas exclusivement, parce qu'on a des articles de réflexion, ou des articles cliniques, puisqu'il y a différentes rubriques. Les rubriques du sommaire s'étant beaucoup, beaucoup modifiées au fil des années. Donc, ce qu'on essaie de maintenir, c'est un sommaire avec une partie clinique, une partie institutionnelle, une partie maintenant, depuis plusieurs années, qui s'est installée sur la pédagogie institutionnelle également, et puis des rubriques qui durent quelques temps, selon l'inspiration. Je sais quand il y avait une collaboration étroite entre la Borde et l'Afrique, il y avait une rubrique qui s'appelait, qui rendait compte, je ne sais plus, la Borde éclair, non c'est pas ça, c'est le journal de la Borde, pardon, qui rendait compte du travail avec, du partenariat avec l'Afrique, qui n'existe plus aujourd'hui parce que ça n'a pas continué. C'est une revue qui a été, hélas, peu et mal diffusée. Donc la diffusion qui a été assurée, c'était tous les ans, parce qu'il y a une journée de psychothérapie institutionnelle assurée par la FIAC. À cette occasion-là, la revue était dans les pochettes d'inscription, donc c'était au printemps. On avait une diffusion pour le numéro de printemps assuré, le numéro d'automne beaucoup plus difficilement. Voilà. Et c'est de la diffusion pratiquement du bouche à oreille, main à la main. Ce qui va changer grâce à notre chargée d'édition, donc Sophie Legrain pour les éditions Dune, qui est en train de travailler à un site qui va pouvoir mettre en ligne et les informations et les abonnements. Alors c'est en chantier très avancé, mais pas tout à fait opérationnel au jour où on se parle. Et à ce moment-là, on pourra aussi travailler avec les librairies. C'est une revue qui n'est pas du tout diffusée dans les librairies. On part en voyageur de commerce avec notre valise et nos sacs à dos, les revues dedans, et sur les colloques ou les lieux amis comme aujourd'hui là au truc, pour diffuser, mais c'est vraiment du bricolage. On est en train d'essayer de passer une étape un petit peu plus efficace. Alors, j'ai entre les mains une revue qui vaut 17 euros parce qu'elle est plus volumineuse que les autres. On a fait aussi un numéro spécial après le décès de Jean Houry, en hommage à Jean Houry. Et puis, une collection que Sophie Legrain, édition Dune, est en train de reprendre, qu'on appelait la boîte à outils, qui donc n'était plus une revue, mais qui était pratiquement des livres. Enfin, c'est une revue à thème, on va dire, et non pas à article. Voilà. Donc, on a au moins ces trois volets-là, le cœur étant la revue deux fois par an, et puis quand on peut, la collection boîte à outils thématique Et on a sorti un hors-série, on en a un second en préparation qui devrait porter, je dis devrait parce que les finances devront suivre, qui devrait porter justement sur un recueil de textes de la pédagogie institutionnelle. J'ai eu la chance d'être aux premières rencontres à Reims de ce qui est devenu le truc et la FedEx, etc., où la nécessité d'entendre et de recueillir et de mettre en acte la parole des patients était pour moi totalement évidente, en fait, du fait de ma trajectoire, enfin, et peut-être aussi de mon statut professionnel. Enfin, et j'ai continué de manière tout à fait enthousiaste à suivre voilà, ces rencontres, parce que quand même le cœur de la psychothérapie institutionnelle, impulsée par François Toscaïès, mais portée par de très nombreux autres, enfin, ça a été, j'ai envie de dire, ce coup de génie, même si je n'aime pas beaucoup les expressions très fortes de François Toscaïès, de s'apercevoir, en catalan ignorant qu'il était quand il est arrivé en France, de s'apercevoir que la législation française n'avait pas retiré aux malades mentaux le droit de s'associer. Donc dans l'après-guerre, après ce qui avait été vécu dans les hôpitaux français, Saint-Alban, mais ailleurs, l'idée de permettre aux malades mentaux de pouvoir, j'ai envie de dire capitaliser, même si le mot ne nous plaît pas beaucoup, capitaliser via l'association loi 1901, ce qui avait été compris à ce moment-là, c'est-à-dire que la socialisation pouvait être thérapeutique, et je dis pouvait parce que ce n'est pas automatique, c'est pas, mais que le patient... obligé de se prendre en charge pendant la guerre ou le patient à qui on offre des possibilités de socialisation souvent en tire des bénéfices thérapeutiques et que le soignant est obligé de réviser complètement ses conceptions du soin et sa pratique du soin après coup. Ben moi, je tiens beaucoup à la notion d'après coup, à la vue de ce qu'on découvre dans ces échanges, enfin, que ce soit en acte, dans un atelier, dans une sortie, dans des groupes de parole. Moi, je pense que c'est du côté du registre du traumatisme, si on pouvait parler du traumatisme positif, c'est-à-dire que, d'une part, le fou, entre guillemets, le malade mental, peut être un autre quand il est dans des fonctions, des rôles et des statuts sociaux, et le soignant, associé au malade mental, découvre ou redécouvre, ou est obligé de s'avouer à lui-même et aux autres que la folie est quand même un bien tout à fait partagé, et que même en tant que médecin, infirmier, éducateur, assistant social, il a quelque chose à voir avec l'insensé. Voilà. Donc les clubs thérapeutiques permettent ça, et le truc est, voilà, est pour moi dans cette filiation-là. On est dans une période très très difficile pour justement ces associations de patients, puisqu'elles sont contestées légalement, administrativement, ce qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que dans la loi, elles existent et à plusieurs strates, enfin légales, circulaires, ordonnances, mais elles sont contestées de fait, et que beaucoup d'entre nous sommes très perdus actuellement pour faire le tri entre le droit et le fait. Enfin, voilà, c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on conteste aux patients, particulièrement en hôpital, mais aussi dans l'extra-hospitalier, on conteste le droit de s'associer, alors que ce droit est totalement incontestable, et on conteste aux professionnels la possibilité de collaborer, par exemple, dans un conseil d'administration avec des gens soignés, psychiatrisés. Donc c'est une période charnière extrêmement importante, et le truc est un outil, pour le moment... c'est-à-dire d'une rare utilité, voilà.
Au sein des espaces du club, on se rencontre avant tout comme personne. La création d'un club est une grande chance. Cet outil va participer à soigner les patients, mais aussi l'institution et ses soignants. Le club est un espace paritaire, soignant-soigné. Un espace de socialisation, de responsabilisation autour de la question du vivre ensemble. Dans la souffrance humaine, ce qui est affecté, attaqué, c'est le lien à l'autre. Alors on va utiliser le prétexte d'un espace commun, du vivre ensemble, pour créer du lien, accueillir, se rencontrer, circuler. Le commun est un support ou un espace de soins, dit Louise. Antoine, j'aime bien le terme support, car cela montre bien que l'on peut s'appuyer sur le club. Dimitri. Moi, le mot espace me parle plus, car c'est un volume que l'on peut habiter. Le peuple, c'est les membres du club. Cela nous rappelle que nous sommes citoyens au sein du club, comme au sein de la vie.
grand merci à Olivia, Eva, Nora, Marie, Odile et Louis. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver sur la page de l'émission quelques documents sonores et visuels qui ont inspiré cette petite balade sonore.
Sorry.